Bonjour chers auditeurs, bienvenue en Europe. Michel Bourges-Monoury au micro. Et donc je vais vous parler, évoquer les questions européennes de ce mois de début de janvier. Et donc d'abord, je vous souhaite à tous une excellente nouvelle année. Et les sujets européens ne manqueront pas dans cette année. Et nous espérons que, évidemment, tout ceci dans le cadre en particulier du conflit entre la Russie, l'Ukraine et indirectement le reste de l'Europe et du monde, que tout ceci pourra aboutir à des situations quand même plus positives. Donc nous œuvrons pour la paix. L'Europe a été construite justement pour la paix. C'est le moment de le rappeler. Et avant d'aborder les sujets européens qui font l'actualité en ce début de mois de janvier, j'aimerais indiquer que là, il y a une présidence tournante au niveau du Conseil de l'Union européenne. La présidence tournante, vous vous souvenez qu'il y avait la présidence de la France l'année dernière, qui a été suivie par la Tchéquie, et maintenant c'est la Suède. Donc la Suède prend la présidence du Conseil de l'Union européenne à partir du 1er janvier jusqu'au 30 juin. Ceci est important à souligner, non pas parce que cette présidence représente extrêmement quelque chose d'important, mais parce que c'est un moyen de donner au pays qui prend la présidence de montrer, notamment à ses citoyens, que l'Europe fait partie du monde dans lequel nous vivons tous. Donc cette présidence, elle s'applique, selon les institutions européennes, au niveau du Conseil. Le Conseil, c'est quoi ? C'est l'organe qui représente les États. Et ces États s'organisent au niveau d'un Conseil de ministres. Donc il y a des réunions ministérielles, par exemple, si on prend l'agriculture, eh bien, les ministres de l'agriculture se réunissent selon un calendrier qui est décidé au niveau européen, et il est présidé là par le ministre de l'agriculture de Suède. Et c'est ainsi que cela fonctionne. Alors, ce conseil, ce n'est pas, il ne faut pas le confondre avec le Conseil européen. Le Conseil européen, lui est présidé actuellement par Charles Michel. C'est un mandat de 2 ans et demi renouvelable. C'est un ancien Premier ministre belge. Mais ce Conseil européen, lui, il trace les grandes lignes. Il débat des grandes questions de politique générale. Et il essaie de programmer, de montrer, voilà, qu'est-ce que nous souhaiterions, quelle serait la priorité à l'avenir. Donc il se réunit, ce Conseil européen, 2 fois par an normalement, au moins une fois par chaque présidence, et parfois il y a des conseils européens exceptionnels. Donc il ne faut pas confondre donc ce Conseil européen, qui est présidé différemment, et le Conseil des ministres, qui est présidé par la Suède. Et la Commission européenne, qu'est-ce qu'elle fait par rapport à ça ? Eh bien, il faut noter qu'il y a un vice-président de cette commission qui, lui, ne fait pas partie de c'est le Conseil des affaires générales, des affaires étrangères, et qui est présidé par le vice-président de la Commission européenne. Et là, c'est actuellement en espagnol, M. Josep Borrell. Et donc, la Suède va présider tous les conseils de ministres particuliers, on dit là, l'agriculture, l'environnement, etc., les affaires intérieures, marché intérieur, etc., sauf les affaires étrangères. Donc voilà pour la présentation de la Suède, qui prend la présidence. Il faut rappeler encore une fois, j'en profite pour dire que dans ce système institutionnel qui a l'air peut-être complexe pour les auditeurs, en fait c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Les institutions européennes ont été formés à la manière, un peu sur le modèle français. Alors, il y a un gouvernement, entre guillemets, c'est la Commission européenne, bon, ça n'a pas tout à fait la même particularité, mais cette commission, c'est elle qui gère, qui exécute les décisions qu'elle propose Et elle les propose à qui? Ben aux États, c'est-à-dire aux ministres et au Parlement européen. Et quand le Parlement européen et les ministres se mettent d'accord, à ce moment-là, la Commission européenne exécute. Donc voilà, il y a une nouvelle présidence, présidence suédoise, et j'y reviendrai peut-être dans un instant par rapport à la situation en Suède.
It's like a diamond dance, I'll take a chance, I will because he needs me.
Alors, revenons à la présidence tournante de l'Union européenne. Tous les 6 mois, un pays de l'Union européenne prend la présidence du Conseil des ministres, donc on appelle ça le Conseil. Cette présidence fonctionne selon un trio. Un trio, ça veut dire qu'il y a 3 présidences qui se mettent ensemble pour préparer un programme pluriannuel qui recoupe par conséquent 1 an et demi. La Suède est le dernier partenaire du trio entamé par la France. France, Tchéquie et maintenant Suède. Donc le pays qui préside ne peut pas tout d'un coup sortir de sa poche une action qui veut dire ben, « moi je vais faire ça et ça au niveau européen ». Non, ça s'inscrit dans un programme qui a été discuté, élaboré. Et ce programme, il est élaboré en concertation avec la Commission européenne. Et la Commission européenne voit auprès des représentants de la présidence, par rapport au programme qui a été initié dans le cadre du mandat de la Commission et des institutions européennes, sur un mandat de 5 ans, et alors après, il y a des mandats plus lointain, par exemple au niveau budgétaire, etc. Donc tout ceci s'inscrit dans quelque chose de commun. Ce qui est quand même intéressant, c'est de voir quand même il y a une certaine personnalisation de la présidence. On l'a vu avec la présidence française en particulier. S'agissant de la Suède, on se pose un certain nombre de questions, non pas que la Suède soit un cas vraiment à part, mais il se trouve que les dernières élections en Suède ont fait apparaître que l'extrême droite est très présente dans le débat là-bas, dans ce pays. Alors, c'est pour ça qu'un certain nombre de partenaires de la Suède se préoccupent de ce que pourrait être l'input, en quelque sorte, de cette présidence. En regardant le programme de la présidence, ce sera une présidence, d'après tout ce qui a été acté au niveau des Suédois, ils l'ont dit, ils l'ont confirmé, ils ont présenté leur programme en mettant l'accent sur un certain nombre de sujets. Et tous ces sujets sont dans la droite ligne de ce qui était prévu. Donc il n'y a pas de problème particulier, ce qui est quand même, et c'est rassurant, je dirais, pour le fonctionnement interne de l'Union européenne. Ceci étant, compte tenu de cette situation politique un peu particulière, il faut noter que s'agissant des questions de l'immigration, du droit d'asile, il y aura certainement la volonté du côté de cette présidence à essayer de faire en sorte que l'on se mette d'accord pour essayer de freiner particulièrement cette migration, ou en tout cas de la réglementer d'une manière assez stricte.
Radio Grand Ciel.
Alors, quels sont les grands sujets qui vont arriver dans l'agenda politique de l'Europe pour cette année 2023 qui débute? Il y a un certain nombre de sujets avec, évidemment, comme on s'en doute, derrière la guerre en Ukraine suite à l'invasion russe. Ceci est évidemment très préoccupant. On a déjà abordé à multiples reprises ce dossier lors de notre émission de radio Grand Ciel, ici Bienvenue en Europe, mais je vais essayer d'indiquer simplement les quelques grands points qui sont dans l'agenda prochainement. D'abord au niveau de l'énergie. Actuellement, il n'y a pas de problème énergétique en Europe pour l'hiver qui vient, en tout cas très peu. Donc là, l'Europe s'est mise d'accord pour essayer de réglementer tout ce qu'elle pouvait pour diminuer les dépenses énergétiques et faire en sorte que le gaz russe en particulier soit remplacé par du gaz de schiste en provenance en particulier des États-Unis, mais pas que. Donc sur ce plan-là, mais les choses sont heureusement pour le présent relativement sans problème. En revanche, il faut d'ores et déjà préparer la suite. Et cette suite se prépare maintenant. Et c'est l'un des grands sujets qu'il va y avoir sur la table de l'Europe, sur la table du Conseil des ministres, comme du Parlement européen. Et donc tout ce qui a été préparé au niveau européen va être essayé d'être mis en place. Il y a le fameux programme Repower EU qui va être mis en place avec un grand nombre de mesures pour essayer de réglementer l'approvisionnement en énergie, mais également le prix du gaz, etc. Donc également le développement de l'hydrogène avec la création d'une banque européenne de l'hydrogène. Enfin, il y a toute une série de choses qui sont sur la table et qui vont être discutées. Du côté des relations extérieures, autre grand sujet qui va faire partie de l'actualité prochaine, c'est évidemment dans le contexte de la guerre en Ukraine. Dès le 3 février, il y aura un sommet qui va se tenir à Kiev entre l'Union européenne et le gouvernement ukrainien pour essayer d'examiner comment l'Europe peut encore aider davantage l'Ukraine pour se défendre de l'invasion russe. Donc un sujet à suivre, et en particulier à travers les fonds européens qui ont été prévus, en particulier les 18 milliards d'euros pour soutenir l'Ukraine cette année, et ceci a été décidé déjà à la fin de l'année dernière. Alors sur le plan militaire, il y a également le souci d'aller de l'avant, non seulement parce que l'Europe aide l'Ukraine, mais elle doit se réarmer et elle doit développer une défense européenne et se mettre d'accord. Donc il faut relancer tout le processus, c'est à la fois sur le plan économique, mais également en liaison avec l'OTAN. Et là, il y a deux pays, la Finlande et la Suède, justement la Suède qui préside actuellement le Conseil, qui ont demandé à faire partie de l'OTAN, précisément en raison de cette invasion russe de l'Ukraine. Et il y a deux pays, parce qu'il faut l'unanimité pour rejoindre l'OTAN, il y a deux pays qui s'y opposent actuellement, la Hongrie et la Turquie, qui font partie de l'OTAN. Alors, on espère que ceci va se débloquer. Apparemment, il y a de grandes discussions, évidemment, en cours. Et on s'attend à ce que, au cours de l'été prochain, ces deux pays, les oppositions, les deux vétos vont être levés. En ce qui concerne les relations extérieures, il y a les États-Unis qui font partie des grands débats pour essayer de contrer le Inflation Reduction Act, qui est la mesure qui a été prise par le gouvernement américain pour soutenir les productions faites sur le sol américain et qui vont dans le sens d'une prise en compte de l'environnement. Ceci, c'est très bien, mais du coup, ça veut dire que du côté européen, tout ce que l'on exporterait vers les États-Unis serait taxé. Donc, ce grand sujet est sur la table et va être discuté pour essayer de contrer cette situation-là. Mmh. Alors, parmi les sujets et thèmes à regarder en ce début d'année au niveau européen, il faut déjà une chose, c'est un anniversaire. Il se trouve que le 1er janvier 1993, ça a été le lancement du marché unique. Et ce marché unique, ou marché intérieur, selon la terminologie, est un élément tout à fait important de l'Union européenne et de la manière dont elle a été mise en place. C'est donc le 30e anniversaire. Et ce marché unique, c'est véritablement l'une des grandes réussites de l'Union européenne. C'est d'abord autour des quatre libertés de déplacement des citoyens, des services, des biens, des personnes, des capitaux. Donc c'est là a été créé à la suite de toute une série de thèmes et de propositions qui avaient été mises en place par Jacques Delors autrefois, pour faire en sorte que le marché commun de l'époque devienne véritablement comme un seul pays. On peut passer d'une frontière à l'autre sans encombre, mais il faut évidemment se mettre aux normes d'un pays à l'autre pour qu'il n'y ait pas de concurrence déloyale. Donc, ceci est très important à souligner, c'est l'une des grandes réussites. Et on va certainement en reparler, précisément cette année, du fait, non pas parce que c'est une date anniversaire importante à souligner, mais simplement parce que le contexte actuel géopolitique fait que ce marché unique risque d'être mis en difficulté compte tenu des grandes mesures sur lesquelles et des grands défis devant lesquels l'Europe est confrontée. Donc ça, c'est une date à souligner et on en reparlera certainement encore. Une autre date à souligner, et là, c'est également un anniversaire, c'est le 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Le traité de l'Élysée, c'est le général de Gaulle qui autrefois l'a mis en place, indépendamment des traités sur l'Union européenne. Il a été mis en place le 22 janvier 1963. Et donc le 22 janvier prochain, 2023, il sera marqué par une réunion qui se tiendra entre les Allemands et les Français, précisément pour marquer à la fois cet anniversaire, mais essayer de voir comment est-ce qu'entre la France et l'Allemagne, on peut essayer d'aller de l'avant d'une manière plus étroite. Et on sait que ces derniers temps, notamment les derniers mois, il y a eu un certain nombre de difficultés avec l'arrivée de M. Olaf Scholz comme chancelier. Donc c'est un sujet qui va être sur la table des discussions. Et apparemment, il y a eu toute une série de dossiers politiques qui ont été déjà préparés, élaborés entre les gouvernements français et allemands pour que ceci aboutisse à aboutissent à des effets qui pourront relancer l'Europe et en particulier relancer cette coopération entre ces deux pays, essentielle évidemment au fonctionnement de l'Union européenne. Simplement un mot pour dire que ce traité de l'Élysée, il est en dehors de l'Union européenne, mais il le complète. C'est un traité intergouvernemental. Mais donc il y a des réunions ministérielles franco-allemandes, il y a des réunions sur des thèmes particuliers. Il faut voir aussi qu'au niveau de l'éducation, de la jeunesse, c'est là où, par exemple, il y a eu l'Office franco-allemand de la jeunesse qui a été lancé. Il y a sur le plan linguistique, en tout cas, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites sur le plan culturel, linguistique, etc. Mais c'est un il complète l'Union européenne par la force qu'il représente au sein de cette Union européenne, à la condition évidemment que les deux pays en question se mettent d'accord pour lancer toute une série de propositions. Et dans le contexte actuel, c'est évidemment vital.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
Faudrait-il que la terre t'écoute, que Dieu lui-même exauce ta prière? Pourquoi faudrait-il qu'on borde ta route de fleurs en bouquet, de sourires fiers? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? As-tu réchauffé le mendiant qui passe, celui qui a faim, celui qui a froid? As-tu de tes yeux contemplé l'espace? As-tu de l'amour au bout de tes doigts? Y a tant d'étoiles dans le ciel, aucune d'entre elles ne brille pour toi. Regarde où se trouve l'essentiel d'un royaume immense, tu deviendras roi. Ton orgueil n'est rien, de paille. Il n'a pas de sens, il n'a pas de loi.
Alors, dernier sujet à aborder lors de notre émission, peut-être, c'est de voir qui est un sujet d'actualité, au niveau français en tout cas. C'est la retraite, l'âge de départ à la retraite dans l'Union européenne. Parce que on parle en France, évidemment, de ce sujet qui est, comme on sait, il y a toute une série de propositions. Le gouvernement a fait une présentation à ce sujet pour le départ de l'âge légal à retraite à 64 ans. Mais on oublie toujours comment ça se passe dans les autres pays. Et les médias français, en tout cas, n'en parlent quasiment jamais. Quel est l'âge légal dans les autres pays ? Eh bien, on s'aperçoit que l'Allemagne, par exemple, on venait de parler des relations franco-allemandes, ben, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 67 ans. En Belgique, c'est 65 ans. En Danemark, c'est 67 ans. En Italie, c'est 67 ans. Aux Pays-Bas, c'est 66 ans et 7 mois. Au Portugal, 66 ans et 7 mois. Donc, ainsi de suite. Et il n'y a que la France et La Suède, il faut dire, mais la Suède est un cas particulier, qui a 62 ans actuellement, mais la Suède, c'est flexible. Donc, ils peuvent partir à 62 ans, mais selon une flexibilité des régimes. Et généralement, ça se traduit par des départs plus tardifs. Après, il reste la Slovaquie, qui est, comme la France, à 62 ans. Donc, les deux égalités, ce serait la Slovaquie et la France. Mais la Slovaquie s'est alignée sur les Pays-Bas qui, eux, ont dit on va faire 66 ans plus, mais par étapes. Donc, voilà quelle est la situation. Non, il ne s'agit pas ici, sur cette radio et dans le cadre de notre émission européenne, de prendre parti pour telle ou telle catégorie de régime qui existe, mais simplement pour essayer de montrer qu'au plan européen, la France est quand même loin derrière les départs qui sont prévus légaux. Je rajoute aussi une chose, c'est qu'au niveau européen, il ne faut pas oublier la démographie. Ça fait partie du sujet. Pourquoi tous ces pays, la plupart, ont reculé l'âge de départ? Parce qu'il y a de moins en moins d'actifs par rapport aux futurs retraités. Et ça pose évidemment des problèmes à commencer par des problèmes financiers et comment est-ce qu'on peut gérer pour payer les retraites par des actifs de moins en moins nombreux par rapport aux pensionnés. Donc voilà, je propose de terminer cette émission sur ce thème d'actualité pour que chacun réfléchisse à cette situation européenne parce que, encore une fois, l'Union européenne, c'est l'Union. C'est vrai que selon la devise européenne, c'est uni dans la diversité, donc là il y a une diversité de sujets, mais on ne doit jamais oublier que nous faisons partie d'un tout, nous sommes citoyens de cette Europe, Et donc, quand on parle d'un sujet qui intéresse un pays, il ne faut jamais oublier comment la situation se présente aussi ailleurs pour qu'on essaie de marcher le plus possible tous ensemble. Au revoir, chers auditeurs. Et puis, en ce début d'année, je vous souhaite encore une fois plein de bonnes choses et nous nous retrouverons ici sur Bienvenue en Europe le mois prochain. Merci.
Amara kamari, amara kamari.